Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est la rentrée scolaire la semaine prochaine. On est avec Christophe qui est directeur d'école primaire et qui craint que le virus circule. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal, et je vais tout vous expliquer dans quelques instants, et je vous expliquerai aussi la posture du ministre de l'Éducation nationale.
La posture, j'ai l'impression que c'est peut-être pour la dénoncer. Amandine, le rappel des titres.
Jean-Michel Blanquer, justement, qui était l'invité ce matin de la matinale d'RTL, et il s'est voulu rassurant, l'école protège, dit-il, à quelques jours maintenant de la rentrée. Ce sera jeudi prochain, dans 6 jours, tout juste, dans l'actualité également, à l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés au 31 août, qui ne sera pas tenu. RTL a regardé les chiffres. Au cours de ces derniers jours, on a eu très peu de vaccinés, jamais aussi peu depuis le mois de mars. L'objectif ne devrait être atteint que autour de la mi-septembre. Dans l'actualité également, ce bilan qui s'alourdit après l'attentat à l'aéroport de Kaboul, au moins 85 morts et plus de 160 blessés. L'attentat, on le rappelle, a fait 13 morts parmi les soldats américains. Les JO, les Jeux paralympiques de Tokyo, et ce compteur qui continue de grimper pour les Français. 5 nouvelles médailles de ce matin, de l'or pour le cycliste Dorian Foulon en poursuite individuelle. 2 médailles d'argent, une pour Alexandre Léauté qui était médaille d'or hier, l'autre pour Sandrine Martinet, la judoka porte-drapeau de l'équipe de France. Et puis du bronze pour Mandy François-Elly qui décroche le bronze en athlétisme sur 200 mètres. Du bronze aussi pour Alex Portal sur 400 mètres en natation. Un tout petit mot de foot, on a beaucoup parlé d'Mbappé tout à l'heure, pour vous dire que le tirage au sort de la Ligue Europa, ça y est, a eu lieu. Nicolas Georgerot, ça s'annonce compliqué pour les clubs français ?
Oui, c'est assez relevé, assez difficile pour Monaco et Marseille. Marseille qui va affronter la Lazio de Rome, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Monaco qui va affronter le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens de Sturm Graz. Et un petit peu mieux pour Lyon face aux Glasgow Rangers, le Sparta Prague et les Danois de Brøndby. Et on attend le tirage de Rennes pour la Ligue Europa Conférence, qui est la 3e Coupe d'Europe et qui sera dans une vingtaine de minutes.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Claire Delorme, la météo, petit coup d'œil avec vous, ça reste mitigé.
On va dire qu'on aura un petit peu plus de nuages encore pour une moitié nord, mais vous inquiétez pas, on aura quand même aussi de très belles éclaircies. Bon, certes, la dominante sera encore nuageuse pour les départements au nord de la Seine, avec ponctuellement quelques toutes petites averses, mais je vous promets qu'on aura quand même du soleil. Le soleil, évidemment, il est bien dominant pour toute la façade atlantique, l'Occitanie, également aussi vers le golfe du Lion, mais tout de même avec quand même Mistral et Tramontane qui vont souffler dans leur domaine. Pour les températures, elles sont de saison, on n'a absolument rien à signaler. En moyenne, 22 degrés pour la moitié nord et 26 degrés pour la moitié sud, allez, quelques valeurs quand même. 21 degrés à Brest, 21 degrés à Lille, 21 degrés également à Paris, 21 degrés à Metz, 22 degrés à Dijon, 27 à Agen et encore plus de 33 degrés dans les arrière-pays de la Méditerranée.
Et ce week-end, vous me disiez, Claire, ce sera la même chose.
Exactement, prends les mêmes, on recommence. Les nuages seront assez denses pour le tiers nord du pays, avec encore quelques petites gouttes, mais vous inquiétez pas, ça va se désagréger, se morceler, on va dire, dans l'après-midi, avec le soleil qui va revenir et qui s'impose bien évidemment sur l'ensemble du pays.
Merci beaucoup Claire.
Merci Amandine pour cette première semaine passée ensemble avec les auditeurs. On va traverser toute la saison l'un
mais
avec
oui.
l'autre. Mais vous n'avez pas encore terminé votre semaine, si j'ose dire, parce qu'un nouveau rendez-vous à 19h15 ce vendredi.
19h15, ils refont la France. On va débriefer l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère ici en France. Comment voient-ils ce qui se passe chez nous ? C'est un autre regard.
Et c'est la première, évidemment,
la première
tout
soir.
À l'heure à 19h15. Merci, Amandine.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christophe, qui est donc directeur d'école primaire à Issy-les-Moulineaux. Vous parliez de posture pour le ministre de l'Éducation nationale, que vous avez sans doute écouté ce matin au micro de Benjamin Sportouche. C'est quoi sa posture ?
Je veux dire par là, Pascal, que le ministre est dans son rôle, à l'instar d'un pilote d'avion qui serait en décollage avec une météo extrêmement compliquée. Vous le voyez dire aux passagers, mesdames, messieurs, le décollage va être absolument catastrophique, je ne suis pas sûr d'arriver à destination. On est dans la même situation. Il est évident que le virus continue à circuler malgré 2 mois d'école fermée. Cela signifie que la rentrée va être compliquée et vous verrez que mercredi prochain et jeudi prochain, il dira que tout s'est bien passé. Donc voilà ce que j'appelle
d'accord.
posture.
C'est mercredi et jeudi à la reprise.
Voilà,
mercredi pour les profs, jeudi pour les élèves.
Voilà. Et heureusement qu'on a RTL et les autres médias, parce qu'il faut quand même que les auditeurs et les parents sachent, les informations, c'est vous qui nous les donnez. Nous n'avons pour le moment aucune information officielle. Et aussi pour assurer les auditeurs, nous sommes dans le même protocole que l'année dernière. C'est
vraiment une reproduction. Pourquoi vous dites ça, que vous n'avez pas des informations officielles ? Moi, j'ai compris qu'il y avait protocole 2 qui était mis en place.
Mais vous n'êtes pas sans savoir que nos amis professeurs et directeurs sont toujours en vacances et que nous n'avons pas sur nos boîtes mail une information qui nous donne les réalités de la rentrée. Voilà la situation, Pascal, et ça a été tout le temps comme ça depuis que le virus existe. Alors, si je peux me permettre, pour ne pas être que critique, moi, il me semble que le ministre avait eu une excellente idée au retour du premier confinement. Souvenez-vous, et je parle du premier degré, il faut bien faire le distinguo entre le premier et le second degré. Puisque l'école est essentielle et que le distanciel a montré ses insuffisances. Oui, tous les professeurs sont d'accord pour que l'école soit ouverte, mais il serait peut-être judicieux de se limiter à l'école et rien que l'école dans un premier temps, pendant au moins 15 jours. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle l'extrascolaire et tout le tout-team, puisque maintenant les écoles sont de véritables fourre-tout, on met ça de côté à l'instar d'un avion en pleine turbulence où le service à bord et le caviar et le champagne que vous avez l'habitude de boire, mon cher Pascal, en classe business, s'est mis de côté le temps qu'on passe ces turbulences. Car nous sommes en pleine turbulence, et je me permets de finir avec ceci, les pauvres directeurs d'école, les pauvres dirlots d'école qui vont être sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ? Allô, Pascal Pro, ici votre directeur Christophe. Vous devez venir chercher Marie-Charlotte et Marie-Chantal parce que la classe est déjà fermée. Voilà ce qui va arriver. Et il y a autre chose que je voulais dire. Les gamins de moins de 10 ans qui portent le masque toute la journée, c'est insupportable.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette imbécilité de les faire jouer avec le masque en récréation ?
Non, ça n'existe plus en récréation. Ça n'existera plus, mais paraît-il. Ça, c'était
mais
j'ai avant.
J'ai entendu le contraire récemment. Et autre chose, vous savez quel est le lieu où on se... Quand ils disent on ne se contamine pas à l'école, faux, on se contamine dans le périscolaire. Et alors, là où c'est le pire, bah, c'est le restaurant scolaire. Dans une école comme la mienne, où il y a 450 couverts chaque midi, vous imaginez, sans masque, qu'est-ce qui se passe ? Donc Pascal, il est dans une posture, parce qu'il ne peut pas avoir d'autre posture. Par contre, les auditeurs doivent se rassurer. Les professeurs, comme les directeurs, les principaux et tous les personnels de direction auront à cœur que cette rentrée se passe au mieux. Cependant, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, mais malgré le vaccin, malgré les masques, malgré la distanciation, malgré les gestes barrières, ce virus circule. Les écoles sont encore fermées. Que va-t-il se passer dans 10 ou 15 jours ?
Ben on va attendre, vous savez, parfois le pire n'est pas...
Malgré toute la bonne volonté de tous les personnels de l'éducation nationale, si nous ne faisons pas plus, et je parle surtout du premier degré, en se limitant à la fin de l'école à 16h30, tel qu'on l'avait fait il y a un an et demi, on va droit dans le mur. Je vous le
Christophe,
promets. Et ce n'est pas parce que j'ai envie qu'on aille droit dans le mur, c'est parce que nous, on est sur le terrain, on n'est pas dans des fauteuils de cuir, loin des réalités de la vie quotidienne, en train de remplir des tableaux Excel qui ne servent à rien et qui servent simplement à donner des statistiques à l'éducation nationale.
Bon, j'ai bien compris.
Voilà ce que Christophe, le pilote d'avion, avait envie de vous dire.
Vous êtes en forme, en tout cas. 2 mois de vacances, ça vous a réussi, manifestement. Vous allez rester avec nous parce que tout le monde n'est pas... Il y a beaucoup de profs et de proviseurs qui nous appellent. Il y a Cyril également qui paraît plus serein que vous. Je précise que quand je voyage en aéroplane, je suis plutôt en éco qu'en business parce que c'est tellement cher un billet de business que pour 2h, 3h ou 4h, quoi. Comme on doit être du simple au triple ou au quadruple, je suis très bien en business. Donc j'ai pas le champagne, cher Christophe. Mais bon, ça c'est pas grave. Il est 13h10. Damien Béchiot, je ne sais pas si vous avez une rentrée avec des enfants programmée.
Pas du tout, Pascal.
Vous n'avez pas encore d'enfants ?
Ma seule rentrée, c'est avec vous.
Il va falloir y penser quand même, Damien. Hein, parce
d'accord,
que,
hein, bah, je oui. tiendrai au courant.
Bah, je l'espère. Évidemment, le jeune Laurent Tessier, je pense pas qu'il y ait une rentrée
encore.
Scolaire. Il y a une rentrée scolaire à la maison, Laurent Tessier. Il nous le dira tout à l'heure. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL+. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier,
bonjour,
c'est la preuve.
Pascal,
c'est pas, c'est bonjour d'abord, c'est trop tôt pour la rentrée scolaire encore, j'imagine.
Pourquoi, pour ma fille?
Oui.
Ah oui, pour Sophia. Elle a fait sa rentrée par contre à la crèche.
Pas pour toi, Laurent.
Je vois que Christophe est directeur d'école à Issy-les-Moulineaux. Oui. Étant donné qu'avec madame, on habite à Issy-les-Moulineaux, si son école est bien, qu'il nous le dise au 3210, on est intéressé. Hein.
Bon, bah écoutez, il n'y a pas de
souci. Je vais passer un message personnel, Christophe.
Que nous dit-on?
Alors, c'est la question qui vous fait réagir. Vous l'avez entendu avec le témoignage de notre directeur d'école. Parents, professeurs, la rentrée scolaire vous inquiète-t-elle? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est confiant. Il était l'invité de RTL ce matin.
Tout va très bien, madame la marquise.
Nous sommes très sereins sur cette rentrée. S'agissant des enfants, on a quand même aussi des données qui sont rassurantes par rapport à tout ce que l'on a vécu. C'est-à-dire que les enfants, et a fortiori ceux de moins de 10 ans, sont moins concernés par la contamination.
La positive attitude.
L'école n'est pas un lieu spécifique de contamination. Bien sûr, l'école protège. Alors, je n'ai jamais prétendu que le virus s'arrêtait à la porte de l'école.
Non, entendu.
Enseignants, parents, dans quel état d'esprit êtes-vous? Christophe, directeur d'école, a été le premier à réagir au standard.
Le ministre est dans son rôle, à l'instar d'un pilote d'avion qui serait en décollage avec une météo extrêmement compliquée. Vous le voyez dire aux passagers, mesdames, messieurs, le décollage va être absolument catastrophique, je ne suis pas sûr d'arriver à destination. On est dans la même situation. Il est évident que le virus continue à circuler malgré 2 mois d'école fermée. Cela signifie que la rentrée va être compliquée.
Et vous, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos appels dès maintenant.
Alors, on était avec Christophe, qui est directeur d'école primaire. On va être avec Cyril. Et Cyril, il est proviseur. Vous avez entendu votre collègue, Cyril.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Bonjour. Manifestement, il est très sombre. Et vous?
Ben oui, il est très sombre, mais nous ne sommes pas dans les mêmes contextes entre le premier et le second degré, il l'a dit d'ailleurs, et je me rejoins sur ce point. Moi, je suis plutôt optimiste sur cette rentrée scolaire qui se prépare. J'ai à cœur à dire qu'on a vécu pendant 1 an et demi une période très compliquée. Je crois aux gestes barrières, je crois qu'il faut maintenir à tout prix et être très exigeant là-dessus, désinfecter les locaux, aérer, etc., pour que la contamination ne se fasse pas. Et je fais référence à ce que l'on a vécu sur l'année scolaire 2020-2021, où on a accueilli les élèves, ils ont respecté dans mon établissement le port du masque, intérieur-extérieur, désinfection des mains à l'entrée du lycée, etc., et nous n'avons pas eu de contamination, de cluster dans le lycée.
Alors, le protocole, finalement, c'est masque pour tout le monde, hein. Vous êtes vous dans un lycée, masque pour tout le monde, masque dans les couloirs, masque à la récréation, masque dans la cour?
Moi je le maintiendrai dans la récréation et dans la cour.
Oui, d'accord, mais bon, plus gestes barrières, donc ça c'est classique. Au moment du déjeuner à la cantine, comment ça se passe chez vous?
On va essayer de gérer les flux et d'éviter les brassages. Là, on a maintenu des classes dans des salles pour la rentrée, pour que le brassage des élèves dans les couloirs ou autres ne se fasse pas trop. Et à la cantine, ce sera pareil, puisqu'on a un organigramme qui prévoit le passage des classes sur certaines heures.
C'est-à-dire que tout le monde ne vient pas déjeuner au même moment, on s'arrange pour étaler le déjeuner. Peut-être qu'avant c'était sur 2 heures, et là on l'étale sur 3 heures.
C'est ça, on est sur 3 heures, de 11h à 14h.
D'accord. Bon. Et mis à part masque, déjeuner, gestes barrières, est-ce qu'il y a autre chose dans le protocole?
Chez nous, c'est l'aération des salles. On contribue, enfin tous les personnels contribuent, enseignants comme les élèves, on leur demande d'aérer les salles de classe aux interclasses pour au maximum brasser l'air.
Ouais, bon, c'est pas très rigolo quand même pour des ados, hein, en lycée qui arrivent en seconde, première. Être avec un masque dans une classe, je trouve que c'est tellement incroyable. C'est la deuxième saison pour eux. C'est la deuxième saison.
Mais pour nous tous, hein, Pascal, nous aussi dans les bureaux, nous portons le masque.
Oui.
Et on se doit d'être exemplaire, bien sûr, sur ce qu'on exige des autres. Hein.
Oui, bien évidemment. Mais parfois, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans un bureau fermé, on peut enlever son masque si on est tout seul. Là, on est en classe, on ne peut pas l'enlever à une seule seconde. Donc c'est compliqué, on le sait. Bon, je ne sais pas si Christophe veut réagir par rapport à ce qu'il disait. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Christophe et Cyril, deux professionnels de l'éducation qui dirigent un enseignement primaire et l'autre un lycée. Christophe?
Mais Christophe n'a pas les mêmes personnels non plus. Hein. Donc, il n'a pas de personnel éducatif pour l'encadrement et je comprends ses difficultés.
Voilà.
Tout à fait.
Mais Pascal, je connais bien la réalité du second degré et mon collègue proviseur a raison de faire le distinguo entre le premier et le second degré puisque j'ai eu la chance de travailler dans les lycées français à l'étranger. Donc, je connais un petit peu l'armada de personnel qu'il y a dans le second degré.
Il y a plus de monde dans le second degré, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. D'accord. C'est ça, Pascal, que les auditeurs doivent comprendre.
Oui, parce que ça, on ne sait pas forcément.
Voilà, moi je suis déchargé de classe parce que j'ai 18 classes, 450 élèves. Mais la plupart de mes collègues directeurs sont chargés de classe. Cela signifie que non, personne, pas d'infirmier, pas de bio, pas de CPE. Ils sont seuls au monde pour diriger leur école et lorsqu'il faudra fermer une classe, ils devront prendre eux-mêmes leur téléphone, mettre leur classe de côté et pouvoir gérer le quotidien avec des parents qui répondront comme Pascal Pro parce que c'est un papa très sérieux et d'autres qui ne répondent jamais au téléphone. Voilà.
Je vous confirme que quand l'école m'appelait, je répondais. Je vois, Christophe, qu'entre votre premier passage et votre deuxième passage, vous êtes monté dans une voiture et que vous étiez peut-être en Bluetooth à l'instant dans votre voiture. Merci.
Exact.
Merci, Christophe.
Exactement.
À Issy-les-Moulineaux. Merci Cyril dans le Loiret. Et on va continuer évidemment cette rentrée scolaire. On pourra parler de Mbappé, vous le savez. On pourra parler de l'Afghanistan. Est-ce que ça vous intéresse, l'Afghanistan ? On s'interroge toujours dans les rédactions parce que c'est évidemment un sujet qui concerne l'étranger. Est-ce que ça passionne les auditeurs, ce qui se passe en Afghanistan ? Ou parce que c'est loin, et puis on pourrait le comprendre, c'est parfois humain, c'est très loin. Peu de gens sont allés en Afghanistan, peu de gens connaissent ce pays. On regarde ça, effectivement, comme une information, et puis elle ne passionne pas forcément. Eh bien, répondez à cette question. Et puis, les Moniques également, c'est la Saint-Monique. Et nous, nous cherchons une Monique qui aurait 25 ans, parce que souvent les Moniques ont passé 75, 80 ans, c'est un ancien prénom. Donc appelez-nous si vous vous appelez Monique, on va rendre hommage à ce prénom, c'est vrai qu'il disparaît. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et sucré.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Romain, peut-être, qui est médecin. Bonjour Romain.
Bonjour.
Comment vous envisagez cette rentrée ?
Bah écoutez, un peu moins sereinement que le ministre ce matin. La situation est compliquée, donc il va falloir être extrêmement vigilant.
Et ça se traduit comment ?
Bien, écoutez, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé cet été, dont on avait beaucoup de cas chez des enfants dans les colonies de vacances, on a vu ce qui a pu se passer, et même moi, à titre personnel, je l'ai vécu avec un de mes enfants. Donc, je suis assez inquiet malgré tout, puisque le protocole qui a été mis en place est finalement un petit peu à l'appréciation de chacun sur certains points, notamment sur le brassage, et on sait que c'est là le point, à mon avis, crucial.
Là, vous parlez du protocole dans les écoles.
Dans les écoles.
Parce que vous avez, vous avez trois enfants.
Ouais, j'ai trois enfants, dont deux en primaire, et on a pu voir parce que le secondaire, il y a un protocole, et c'est vrai, mais il faut aussi noter que les enfants, les jeunes gens à partir de 12 ans peuvent se faire vacciner. Or, dans les écoles maternelles et primaires, les enfants ne sont pas vaccinés. On sait depuis l'émergence du variant Delta que ce variant est extrêmement contagieux, qui est d'autant plus présent et donc finalement chez les enfants également, comme les précédents variants, mais comme il est d'autant plus contagieux, eh bien, il est d'autant plus présent chez les enfants. Et le brassage, tu sais que ça va risquer d'être compliqué. Et je pointe le problème du port du masque. Alors, je sais que c'est extrêmement compliqué de supporter un masque. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est dans un bureau tout seul, on peut parfois le retirer. Des enfants.
Non, mais c'est insupportable pour les enfants, évidemment, qui ont 12 ans, 13 ans. Et déjà, pour nous, les adultes, c'est compliqué. Donc des gosses. Oui. Vous avez trois enfants. Ils ont quel âge, Romain ?
Moi, j'en ai un qui a 9 ans, un qui a 6 ans et un qui a 2 ans et demi.
Donc, ces trois-là ne sont pas vaccinés ?
Et non, aucun. Alors, j'ai un de mes enfants qui a eu le Covid au cours de l'été et qui l'a attrapé en colonie de vacances, qui nous écoute là, donc un petit coucou à lui.
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Nathaniel.
Eh bien, on va le saluer, Nathaniel. Bonjour, Nathaniel. Il va bien ?
Ah oui, il va beaucoup mieux, mais je tiens
il
à dire...
Il a eu des symptômes quand même ?
Eh bien, oui. Oui, les enfants sont symptomatiques quand même. Hein. Il a été bien fatigué.
Il avait quel âge ? Il a quel âge ?
Il va avoir 9 ans. Donc
c'est celui qui a eu 9 ans. D'accord. Ça s'est traduit comment ? Il a eu de la fièvre ?
Fièvre, fatigue, tout. Et on,
la fatigue, on la mesure très facilement chez les enfants, c'est quand ils sont apathiques. Hein. On voit qu'ils sont pas comme d'habitude. C'est une appréciation très subjective. Mais on voit qu'ils sont pas comme d'habitude.
Ça, c'est sûr. Ça a duré combien de temps?
Ça a duré quelques jours. Ça a duré moins de 5 jours, 5-6 jours. Mais
on est sûr que c'était le Covid.
Ah oui, ça a été parce que toute la colo a été testée plusieurs fois et on a la confirmation que c'était le Covid. Et c'est parce que il y a eu un brassage pendant les colos qu'il y a eu ça.
Et il a été soigné à quoi?
Il a été soigné à rien du tout.
Rien.
Doliprane, c'est tout.
Doliprane. Oui, vous lui avez rien donné d'autre?
Ah non, non. Ah non, non, j'applique à mes enfants ce que j'applique à tous mes patients. C'est quand il y a un besoin de traitement symptomatique, du paracétamol, et c'est tout. Il y a des complications, c'est autre chose, mais.
Bien sûr.
Mais pour revenir sur le partage, écoutez, c'est ce qui m'inquiète, et je pense qu'il va falloir. Et je reviens sur ce que disait le syndicat des enseignants du primaire, qui disait que le port du masque devrait être également recommandé en récréation. Et je pense que là, ils ont parlé avec beaucoup de bon sens, parce que en récréation, on se regroupe, et c'est à ce moment-là que si on retire le masque, on peut se contaminer.
Oui, bien sûr, mais
ce ne serait pas la même chose. Et on attend avec impatience les résultats des études de Pfizer et Moderna chez les groupes de 5 à 11 ans. On attend avec impatience et j'espère qu'on aura toutes les assurances pour pouvoir vacciner au plus rapidement nos plus jeunes.
Ah, parce que vous voulez vacciner, vous, tout le monde?
Ah, moi, je
vaccine. Vous vaccinez même les moins de 12 ans, vous vaccineriez?
Dès qu'on a les études de pharmacovigilance et tout, dès qu'on a l'assurance que tout va bien, et il n'y a pas de raison, oui, bien sûr.
Bah, il peut y avoir des raisons, mais manifestement, vous ne les partagez pas forcément. Merci en tout cas, Romain. Merci, Nicolas est là. On parle de cette rentrée. Nicolas qui est directeur d'une école primaire et qui, après le passage de Christophe était également directeur d'une école primaire. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Merci. Ben non, pourquoi?
Parce que... c'est le rôle du ministre, hein, il a raison, Christophe, de dire ça. Néanmoins, écoutez, moi, je ne vais pas être plus inquiet que... Enfin, je suis même moins inquiet que la rentrée dernière, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'on a éprouvé quand même beaucoup de choses pendant un an. En effet, le non-brassage, nous avons décidé, on s'est déjà concerté avec les collègues de l'école, même si on est au mois d'août, hein, on a déjà travaillé un petit peu, pour se dire que... le niveau de protocole qu'on avait l'année dernière et qui a fait qu'on a fermé une seule fois une classe dans l'année, parce qu'on n'en a pas fermé tant que ça, et bien on va garder le même protocole. Et puis il y a des choses sur lesquelles on a pu travailler sur le non-brassage aussi pendant le périscolaire, des enfants d'une même classe qui déjeunent ensemble le midi sans se mélanger aux autres classes. Et tout ça fait que, on est plutôt serein pour la rentrée qui vient, là. Je suis pas inquiet, en fait.
Écoutez, si vous n'êtes pas inquiet, c'est... Combien de classes chez vous dans votre école primaire?
C'est une école de 5 classes avec presque 130 élèves.
Donc c'est peut-être une école également qui n'y a pas trop de brassage puisqu'il n'y a pas trop d'élèves.
En effet, il y en a moins que dans une école de 400 élèves, mais des écoles de 400 élèves, il n'y en a plus tant que ça déjà. Mais peut-être la taille de l'école s'y prête, mais je suis pas le seul. Hein. Autour de moi, j'ai quelques collègues directeurs, dont une collègue avec qui j'ai discuté hier d'ailleurs encore, qui elle aussi aborde cette rentrée plutôt sereinement, en se disant ça fait un an et demi maintenant qu'on est dans le Covid. Et puis, on commence à avoir un peu d'habitude de fonctionnement, des habitudes de travail aussi. J'entendais que c'est difficile pour les enfants de porter des masques. C'est pas simple, mais j'ai pas d'enfants qui se plaignent de devoir porter le masque.
Bien sûr, parce qu'ils sont habitués, effectivement. Les enfants sont résilients, et c'est ça qui est pas peut-être le pire, d'ailleurs, c'est qu'on s'habitue à tout. Merci, Nicolas. Pause, nous allons voir Olivier, qui, cette année, est à la page Facebook. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Alors, avant de lire les commentaires de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, Pascal, hier, durant l'émission, nous parlions de Marcel Proust, vous vous souvenez?
Bien sûr. Et comment?
Et donc, Donc, pendant la soirée, je me suis intéressé à quelques-unes de ces citations et je voulais vous en dédier l'une d'entre elles. Est-ce que je peux ?
Je vous en prie, cher camarade.
Alors, c'est la suivante. Oui. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Eh bien, écoutez, Pascal, dans ma vie, vous êtes un jardinier. Je voulais vous le dire.
Mais vraiment, mais c'est terrible. Bon, c'est tout ce que vous avez à me dire.
Ben non, les messages aussi,
bah
bien
oui,
sûr.
C'est quand même plus important.
Eh oui, c'est sûr. Ouais. Pour Anne, cette rentrée sanitairement parlant très inquiétante. Pour l'instant, je ne compte pas remettre mes enfants à l'école, nous dit-elle. Philippe nous écrit comment Jean-Michel Blanquer peut dire nous sommes très sereins alors que rien ne fonctionne depuis des mois et des mois. Thierry s'énerve sur notre page Facebook. Ça ne m'inquiète pas, ça m'agace. On oblige les infirmiers, les infirmières à se vacciner, mais pas les profs. C'est honteux, on conclut avec Jeanne qui nous dit cette rentrée ne m'inquiète pas du tout. J'ai hâte que mes enfants retournent s'épanouir à l'école en toute sécurité.
On a plein de sujets aujourd'hui et on a ce sujet Monique, puisque c'est la Sainte Monique. Et le prénom Monique vient du grec monos, qui veut dire seul. Et Sainte Monique, qui est une berbère chrétienne du 4e siècle, avait bien des déboires avec son dépravé de fils, un certain Augustin, qui de surcroît se flattait d'être un adepte du manichéisme. La popularité du prénom Monique, le pic, c'est en 1946 à peu près, 1950, où il y a eu jusqu'à 19 000 Monique qui naissaient chaque année. Et a priori, en France, aujourd'hui, il resterait encore 188 000 Monique et il resterait des hommes qui s'appellent Monique. Ça, je suis quand même très surpris. Il y aurait 99 hommes qui s'appellent Monique. Alors, nous, avant la fin de l'émission, on va essayer de trouver comment dire, une Monique qui nous appellerait, hein, bien évidemment. Et pourquoi pas une Monique de 25-30 ans ? Ça serait assez étonnant. C'est un prénom si particulier, Monique, qui signe une époque, précisément. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Leclerc. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Vous pourrez réagir à l'attentat meurtrier à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan par l'État islamique. Des dizaines de morts, dont 13 soldats américains. Est-ce l'échec de Joe Biden ? Est-il responsable ? Écoutez le président américain.
À ceux qui ont commandité ces attaques, on ne pardonnera pas. On n'oubliera pas.
We will hunt you down.
On vous traquera et on vous fera payer. On ne se laissera pas intimider par des terroristes. On ne les laissera pas interrompre notre mission. Nous allons continuer les évacuations. J'ai demandé à mes chefs militaires de préparer des opérations contre l'État islamique, leurs leaders et leurs infrastructures. Nous répondrons avec force et précision à l'endroit et au moment voulu.
Et nous attendons vos appels dès maintenant au standard. Historiciser le mal, l'édition critique de Mein Kampf d'Adolf Hitler a été vendue à plus de 9000 exemplaires en 3 mois, selon Le Point, un chiffre conséquent compte tenu de son prix de vente, 100 euros. Les éditions vont relancer un second tirage. Est-ce que cela vous choque ? Donnez-nous votre avis dès maintenant au standard.
Et puis on pourrait évoquer évidemment Kylian Mbappé, on en a parlé avec Nicolas Jargerau. L'attaquant français est-il ingrat avec le Paris Saint-Germain ? On s'est posé la question, est-ce qu'il doit partir au Real Madrid ? On a cherché à comprendre pourquoi il partait et il y a effectivement des problèmes d'environnement puisque au PSG il n'est plus la star ou il ne serait plus la star. Il y a Messi, il y a Neymar, alors que le Real Madrid pourrait
est-ce
construire.
Est-ce un problème d'ego, vous pensez ?
Bah, en tout cas, c'est une piste. Et puis, il y a l'environnement également en France. C'est vrai qu'il est parfois sifflé, parfois critiqué par la presse également. J'ai le sentiment que son image a changé. L'image de Mbappé, elle était très positive il y a 2-3 ans. Et elle a un petit peu. Elle a été modifiée. Il paraît peut-être plus lointain, aujourd'hui moins accessible. En tout cas, mais...
Est-ce qu'on n'est pas trop dur parce qu'il y a Kylian Mbappé ?
En tout cas, on pourra poser la question aux auditeurs. On était donc avec Romain, on était en train de conclure avec lui. Romain qui est médecin, qui a 3 enfants et qui était à moitié serein, disait-il, hein, sur cette période, Romain.
Oui, c'est ça. Je pense que j'écoutais le directeur d'école qui a parlé après et qui disait que les protocoles de l'an dernier seront reconduits. C'est une bonne chose parce qu'effectivement... on a pu éviter quand même beaucoup de contamination, mais on est quand même à des taux aujourd'hui importants de contamination. On a quand même entre 20 et 30 000 cas, c'est quand même énorme. Il faut le garder en tête. Et si on n'avait pas le pass sanitaire, si on n'avait pas la vaccination, on serait confiné. Il faut bien le garder en tête. Et je reviendrai sur les
activités. Ce que vous dites est possible, Romain, mais ça m'ennuie toujours avec les si, parce que on n'en sait rien quand même. Moi, j'ai envie quand même, après un an, d'avoir une forme d'humilité parfois. Vous dites, j'entendais Olivier Véran, qui est médecin comme vous, mais ce qui me frappe parfois, il nous a expliqué hier, Olivier Véran, que s'il n'y avait pas eu la vaccination, il y aurait eu peut-être des milliers de morts, que la quatrième vague aurait été la plus meurtrière, etc. Et vous, de la même manière, vous dites, on serait confiné. L'année dernière, il n'y avait pas de vaccin, on n'était pas confiné.
Il n'y avait pas autant de cas, Pascal. Il y avait pas
mais parce que peut-être on ne testait pas autant.
Écoutez, on va pas non plus. On peut toujours faire de.
Vous voyez, moi, ça m'ennuie toujours parce qu'il y a 30 000 cas.
Regardez ce qui se passe en Martinique.
Non, mais
regardez ce qui se passe en Martinique. C'est l'exemple même.
Non, parce que la Martinique, la population parfois est différente de celle en France. Il y a des particularités sur la population de Martinique qui peuvent expliquer aussi le nombre de cas graves qu'il n'y a pas forcément partout.
Je pense qu'il faut rester extrêmement humble et vous l'avez souligné tout à l'heure et je pense qu'il faut qu'on soit chacun humble. Mais honnêtement, si je peux donner un message, c'est que franchement, la vaccination permet aujourd'hui d'éviter qu'il y ait un nombre de morts extrêmement important.
Vous avez raison sur ce point, les cas graves. Sur les gens fragiles, il n'y a absolument pas de discussion. Vous avez parfaitement raison.
Mais pas que, parce que on l'a vu chez des gens qui n'avaient pas forcément de comorbidité, chez des gens qui étaient honnêtement bien portants, des gens jeunes. Qui n'était pas vacciné, qui se retrouve en réanimation, qui se retrouve fatigué avec des Covid longs, parce que c'est ça. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la vaccination chez les plus jeunes, et il y a des gens qui s'inquiètent concernant les myocardites induites par le vaccin éventuel. Alors oui, il y a des myocardites, il y a quelques cas, mais moins de cas. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut entraîner des douleurs comme un infarctus du myocarde, donc pour que les gens comprennent. Mais c'est un problème viral. Et les virus peuvent donner des myocardites chez des gens jeunes. J'ai souvenir d'un collègue qui avait une quarantaine d'années qui a été emporté par une myocardite en 3 jours. Bien sûr, pas dû au Covid, c'était il y a plusieurs années. Donc, les myocardites sont plus... on a plus de risques de développer une myocardite avec le Covid qu'avec le vaccin. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est bien portant, qui est jeune, peut, alors évidemment, peu de risques, c'est des faibles probabilités, mais plus on a de cas, plus on augmente ses chances, si je puis dire. Et en l'occurrence, c'est la vaccination qui nous protège. C'est la vaccination qui nous permet
Romain.
D'avoir une bonne rentrée, et c'est ce qui permettra de protéger aussi nos enseignants.
Merci, je comprends votre parole, qui est évidemment la parole d'un médecin, elle est compréhensible. Merci beaucoup, Romain. Il est 13h36, nous allons continuer cette rentrée qui s'annonce avec des inquiétudes parfois. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur Air Leclerc. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'était intéressant d'écouter le ministre de la Santé hier. En métropole, nous avons évité le pire, a-t-il dit. Le virus est en constante diminution. Il a également dit que la quatrième vague de Covid aurait pu être la pire des vagues que nous ayons connues. La quatrième vague est pour l'essentiel une épidémie qui touche les non-vaccinés, a-t-il ajouté. Les hôpitaux sont remplis de patients non-vaccinés. Les services d'urgence interviennent pour des patients non-vaccinés. Les décès touchent des patients non vaccinés. Nous sommes avec Daniel, qui est enseignant dans un lycée à Clermont-Ferrand. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Voilà, effectivement, je suis enseignant dans un lycée polyvalent, un grand lycée, puisqu'on est à peu près à 1800 élèves. Ça va de la seconde jusqu'aux classes préparatoires, donc ce qui représente quand même un brassage assez important. En ce qui me concerne, je suis atteint de quelques pathologies qui ont fait que j'ai été écarté du lycée pendant quelques mois et j'ai dû travailler donc à distance. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé.
Et bah, c'est pas très agréable, j'imagine, pour vous.
Non, c'était pas très agréable. C'était même assez prenant, et je dirais même au minimum deux fois plus prenant que du présentiel avec des élèves.
Mais là, vous allez rentrer en présentiel ?
Eh bien, d'après les informations du ministre, enfin du ministère, oui, je vais retourner en présentiel.
Et qu'est-ce qui a changé ?
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, en fait, en ce qui me concerne, j'ai toujours ces pathologies, donc a priori, je devrais rester en distanciel. Simplement, d'après les informations du ministère, c'est tout le personnel enseignant, tous les élèves qui doivent retourner en présentiel.
Et qu'est-ce que vous souhaitez ?
Alors, moi, j'y vais un petit peu reculons. Parce que j'ai fait du présentiel sur la fin de l'année, à partir, on va dire, des congés de Pâques, qui ont été alternés, puisque c'était une semaine sur deux dans notre établissement. Et je me suis rendu compte que, eh bien, au niveau des protocoles, c'était assez difficile à mettre en œuvre.
Notamment parce qu'en clair, vous êtes à risque. C'est-à-dire que si vous entrez dans une classe, il ne faut surtout pas que vous attrapiez le Covid, même si j'imagine que vous êtes vacciné.
Tout à fait, je suis vacciné, j'ai mes deux doses.
Mais il y a un risque parce que vous pouvez avoir une comorbidité quelconque et vous êtes plus à risque qu'une autre personne, c'est bien cela ?
C'est tout à fait ça.
Donc vous n'êtes pas serein et vous avez un peu peur.
J'ai un petit peu peur de voir comment ça va se passer. J'ai pu voir donc, dans les quelques semaines où j'ai retrouvé mes élèves en fin d'année que les protocoles n'étaient pas toujours forcément respectés.
Oui, forcément, bien sûr. Les masques ne sont pas toujours bien portés, les mains ne sont pas toujours bien lavées, les gestes barrières pas toujours respectés. Bon, mais alors, là, ce que je ne comprends pas, c'est que la rentrée pour vous, c'est jeudi. Vous savez quand même si vous serez jeudi dans une classe ou pas ? Il y a un petit doute encore.
Pour l'instant, j'ai pas eu d'informations spécifiques. Donc, a priori, oui, je vais aller au lycée, je vais aller au travail.
Arculons, voilà, mais bon, vous allez y aller quand même. Vous enseignez dans quelle matière ?
Alors moi, je suis dans le technique, donc c'est ce qui s'appelle maintenant STI 2D. Ça parle pas à beaucoup de gens,
non.
Mais c'est les anciens bacs technologiques qui ont été remaniés. Donc on a pas mal de séances qui se passent dans des laboratoires avec des élèves qui sont côte à côte et pour les aider à manipuler les appareillages, on est forcément obligé de ne pas respecter la distance de 1 mètre. Voilà, donc...
Je comprends. Vous savez ce que je vous propose, Daniel, c'est vous reprenez jeudi et ça serait bien que vous nous appeliez, que vous nous disiez comment ça s'est passé. Si vous êtes quand même vacciné avec les deux doses, même si vous avez, malheureusement, si vous attrapez le Covid, vous êtes quand même à l'abri d'une forme grave, a priori.
Oui.
C'est Pfizer, j'imagine ?
Non, c'est AstraZeneca.
AstraZeneca. Bon, il y a deux doses à AstraZeneca ?
Oui.
D'accord.
Vous avez fait vos deux doses.
Vous avez fait vos deux doses. Janssen, c'est une dose. AstraZeneca, c'est deux doses. Pfizer, c'est deux doses. Bon, bah écoutez, merci Daniel de ce témoignage. Vous n'avez eu aucun souci après le vaccin. Il n'y a jamais eu d'effet indésirable. Tout va bien.
Absolument aucun effet indésirable, si ce n'est le petit mal à l'épaule qui correspond à un petit bleu. Mais franchement, rien de dramatique.
Bon, ben merci. On va parler de Monique, puisque c'est la Sainte Monique aujourd'hui. Il est 13h45.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est un prénom emblématique, c'est vrai, d'une génération, Monique. Je disais tout à l'heure, c'est le pic, c'est dans les années 40-50, il y aurait près de 200 000 Moniques en France. Et on se demandait s'il y avait encore des Moniques jeunes, voire très jeunes. Eh bien, nous avons une Monique qui a 24 ans. Bonjour Monique.
Bonjour.
Bah, ça me fait plaisir de vous entendre. J'imagine que...
C'est la première fois.
Bah, c'est la première fois, mais d'abord, je vous remercie vraiment de nous avoir appelés. Quel rapport vous avez avec votre prénom ?
Bah, un peu compliqué toute l'enfance, on va dire. Et maintenant que je suis une adulte, ça va un peu mieux. Ouais.
Pourquoi vos parents vous ont appelée Monique ?
Alors ma mère a décidé Monique pour rendre hommage entre guillemets à sa mère tout simplement.
Et vous lui avez demandé pourquoi elle avait choisi ce prénom-là qui était d'un autre comment dire d'une autre génération et peut-être qu'il pouvait vous mettre sinon en difficulté en tout cas vous mettre parfois effectivement il peut avoir des petites railleries sur le prénom.
Exactement. Bah alors moi j'ai demandé plusieurs fois parce que j'en ai voulu plusieurs fois d'avoir appelé Monique entre guillemets.
Ouais.
Mais voilà, c'est elle aimait énormément sa mère et je pense qu'elle m'aime encore.
Là on vous entend moins bien. Vous êtes toujours avec nous, Monique ?
Oui, vous m'entendez mieux là ?
Ouais, là je vous entends, ouais.
Et pour rendre hommage à sa mère et voilà, tout simplement, c'est parti de ça.
Bon, même si vous dites que ça a été difficile, vous n'avez jamais imaginé utiliser peut-être davantage votre deuxième prénom, ce qui peut se faire de temps en temps.
Non, c'est vrai que pendant l'année, parce que j'ai étudié à Paris pendant un an, j'ai hésité au début à donner mon deuxième prénom. Mmh. Et après, je me suis dit, bon, je m'appelle Monique, quoi.
Mais non, mais vous avez raison. Et puis, moi, je trouve que c'est en plus un joli prénom. Mais vous savez, c'est comme Raymond, comme Robert, comme Roger. Ce sont des prénoms très connotés, puisqu'ils appartiennent. Alors, tous les prénoms sont souvent connotés et renvoient toujours à une époque, bien évidemment. Dans ma génération, il y avait des Nathalie, des Isabelle, des Pascal, etc. Et il n'y en a plus aujourd'hui. Des Patrick, tout ça, il n'y en a plus. Je ne sais pas si vous avez parfois des amoureux ou des amoureuses d'ailleurs, mais quel rapport ils ont avec votre prénom ?
Alors, mon prénom, c'est simple. En fait, depuis jeune, tout le monde m'appelle Momo.
Ouais.
Clairement. Et donc, du coup, quand on me voit arriver, en général, on rigole parce que quand on dit le Momo arrive, on n'imagine pas moi.
Oui.
Et c'est vrai que c'est la petite anecdote rigolote, on va dire.
Bon, bah écoutez, c'est Julien. Alors, tout à l'heure, on avait lancé, je crois que Julien Courbet est avec nous. Et Julien, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Bon, Julien, je vous signale qu'à midi, vous m'avez... À midi, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on vous rappelle. À midi, vous m'avez expliqué que toute l'après-midi, je chercherais une personne qui s'appelle Monique et qui soit jeune. Eh bien, on a Monique qui a 24 ans, figurez-vous.
J'ai écouté l'émission. Vous prouvez par A plus B qu'il y a tellement d'auditeurs sur RTL que la probabilité que vous en trouviez une, c'était plutôt facile. Sur une autre radio, ils n'auraient pas pu le faire. Mais félicitations, en tout cas... Elle a une très belle voix, Monique, et ça lui va très bien.
Eh ben moi, je suis d'accord avec vous. Tout va bien, Julien ?
Ben, vous pouvez m'appeler par mon deuxième prénom, puisque je m'appelle René. Donc, vous voyez,
c'est vrai ?
Si Monique veut aller boire un verre avec René, ben, ça sera avec plaisir.
Bah, carrément. Non, mais par la Sarthe, hein, mais, c'est au courant.
Mais c'est vrai.
Vous trouverez facilement.
Mais c'est vrai que René est un magnifique prénom. Mais ces prénoms, j'ai dit Roger, Robert, Raymond, Jacqueline, ces prénoms sont très connotés, cher Julien.
Comme tu le disais, sur notre génération, on avait l'impression d'avoir des prénoms très modernes, avec des Nathalie, des Laurence en voiture. Voilà, il n'y en a quasiment plus maintenant. En tout cas, moins, et ça reviendra, bien sûr.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des prénoms qui reviennent, des vieux prénoms, par exemple Jules ou Victor, il n'y en avait pas quand on était enfant dans les classes, mais ces prénoms sont redevenus à la mode. Alors, est-ce que Monique peut redevenir à la mode ? Et je pose la question à Monique.
J'espère, mais j'y crois pas trop, honnêtement.
Ça va être compliqué, quand même.
Franchement, faut y aller. Hein.
Bah, en tout cas, vous avez...
Monique a autant de chances de revenir à la mode que les Girondins de Bordeaux gagnent le championnat cette année, c'est la première année. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire que ça va être compliqué.
On y croit.
En tout cas, je salue chez notre Monique de 24 ans à qui on re-souhaite la fête. Je salue son humour, sa dérision, sa légèreté. Et puis finalement, vous avez dit la chose la plus importante, c'est que votre mère adorait sa propre mère et que vous avez un prénom qui est un prénom de l'amour. Et ça, finalement,
exactement,
c'est peut-être la chose la plus importante.
C'est ça. Merci de m'avoir entendu et merci de m'avoir fait ma fête.
Julien, on vous retrouve lundi, paraît-il, mais ça sera sur M6 également.
C'est les deux, ça sera RTL dès 9h30 et puis sur M6 à partir de 10h, mais c'est le programme RTL qu'on verra comme l'année dernière.
Merci, passez un excellent week-end. Il est 13h50. Bon
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les prénoms, ça fait toujours parler. Jean-Alphonse Richard est entré dans ce studio. Vous, c'est trois prénoms. Hein. Jean-Alphonse Richard.
Oui, c'est donc, ça, trois prénoms. Richard, c'est homme très riche au Moyen-Âge. Hein,
voyez, certes. Donc,
Et Jean-Alphonse me disait qu'il y a un prénom que j'adore, mais qui est importable, c'est Hercule.
Hercule, c'est magnifique.
Oui,
c'est importable, on est d'accord.
C'est pas difficile.
C'est magnifique. Pas facile d'appeler son fils Hercule.
Sauf si c'est un gringalet.
Oui, non, je vous... Hercule, viens là, s'il te plaît, papa t'attend au rayon supermarché. Non, c'est pas facile. Mais le prénom en dit beaucoup, évidemment, sur les parents, sur le milieu social, ouais, sur le milieu culturel. Un prénom, effectivement, c'est un passeport aussi. Alors, l'heure du crime, 14h30, quel est le programme?
Ah ben écoutez, deux prénoms, mais des prénoms du crime. Guy Georges, c'est l'un des pires tueurs en série qui soit. Sept femmes assassinées au milieu des années 90 à Paris, 7 ans de traque, 23 ans qu'il est en prison aujourd'hui, et sans doute il ne sortira jamais. On va se poser...
Il sortira jamais?
Non, il sortira jamais parce que d'abord il ne veut pas sortir, il est à la prison d'Ansisheim en Alsace, et il est complètement dans une espèce de forteresse, et puis personne en l'état ne lui donnera l'autorisation de sortir vu la cruauté et l'horreur des crimes qu'il a perpétrés. On va s'interroger quand même aujourd'hui sur pourquoi fascine-t-il autant encore Guy Georges aujourd'hui? Il continue de recevoir des dizaines de lettres d'admiratrices, ce qui est quand même un cas d'espèce étonnant. Et un livre révèle qu'une mère des sept victimes, lui a écrit pendant longtemps pour sans doute essayer de comprendre ses mécanismes. Un livre qui fait état de ses lettres, on va en parler, c'est Patricia Tourangeau qui sera notre invitée, la journaliste, et puis un père de victimes aussi, Monsieur Escarfaille, qui a beaucoup souffert dans cette affaire.
C'est à 14h30, bien évidemment, et vous êtes au contact, évidemment, de ces criminels et également de l'administration pénitentiaire. Par exemple, si vous faites une demande d'interview de Guy Georges, elle est acceptée?
Alors, l'interview, il faut que déjà l'intéressé ou son avocat soit d'accord. C'est pas, on ne peut pas lui imposer une interview. Ça peut arriver dans des conditions très encadrées, avec une demande auprès du juge qui s'occupe de lui, auprès de l'administration pénitentiaire. Donc c'est en général très très compliqué. Je sais en l'état, puisqu'elle l'a écrit dans son livre, que Patricia Tourangeau a pu l'approcher lors d'une visite à la prison d'Ansisheim. Très fugitivement d'ailleurs, elle a pu lui parler, dire quelques mots mais surtout le décrire et le voir. C'est quelqu'un qui est devenu obèse aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec le Guy Georges qu'on connaît. Mais effectivement, on peut faire ce genre de demande, avec très peu de chances de succès que ça aboutisse.
Il est 13h55, Laurent Tessier, que nous dit-on sur les réseaux sociaux?
Et nous pouvons parler avec vous sur les réseaux sociaux et au standard d'un prénom, justement, qui fait du bruit en ce moment, le feuilleton Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, toujours plus proche du Real Madrid.
À 160 millions d'euros, le PSG ne voulait pas entendre parler d'un éventuel transfert. Mais à 180 millions, les négociations maintenant commencent réellement. Le Real Madrid va vite.
Le transfert de Kylian Mbappé pourrait même être annoncé d'ici la fin de la journée.
Mais l'attaquant français est-il ingrat avec le Paris Saint-Germain? Doit-il partir au Real Madrid? Les choses ont l'air d'avancer.
Au Real Madrid, les préparatifs en vue de sa présentation sont d'ailleurs déjà lancés et on espère pouvoir présenter le Français aux supporters madrilènes après la trêve internationale, le vendredi 10 ou le samedi 11 septembre. Selon la presse espagnole, Mbappé aurait d'ailleurs déjà son numéro de maillot de réservé, le 5 que portait un certain Zinedine Zidane au Real et que Raphaël Varane vient d'abandonner.
Amis madrilènes, fans du Real, êtes-vous pressés de voir Kylian Mbappé aller sur la pelouse du Santiago Bernabéu avec l'hymne du club?
Madrid de Placido Domingo.
Mais c'est celui qui passe actuellement.
Ah bon?
Voilà,
parce que c'est à la Madrid.
Exactement. Mais celui-là, c'est celui qui passe.
À la Madrid.
Ah bon, on va vous le retrouver.
Hein. Ah non, il est formidable, Placido Domingo. Moi, je l'ai entendu dans le stade. C'est la chair de poule. Hein,
lorsque moi, j'ai entendu cette version dans le stade.
Ouais, moi, je m'étonnais. Je crois que Damien Béchiot nous le proposait. On l'entendra tout à l'heure. Historiser le mal, l'édition critique de Mein Kampf d'Adolf Hitler a été vendue à plus de 9000 exemplaires en 3 mois selon le journal Le Point. Un chiffre conséquent compte tenu de son prix de vente, 100 euros. Les éditions vont relancer d'ailleurs un second tirage. Et il y avait d'ailleurs un tweet de Jean-Luc Mélenchon hier qui regrettait que Mein Kampf soit mis en vente. Nous sommes avec Véronique, bonjour, qui habite Le Mans. Bonjour. Qu'en pensez-vous?
Toute la polémique sur Mein Kampf, on peut avoir Mein Kampf chez soi et pas forcément être pour les idées. Ça, c'est, je dirais que c'est un écrit qui est historique maintenant. Comme on peut avoir la Bible et pas être chrétien, ou avoir le Coran parce qu'on veut savoir un petit peu ce qui est écrit dedans. Donc là, il est vendu 100 euros parce que c'est comme les peintures. Les gens vont essayer de faire un petit peu d'argent là-dessus parce qu'il va y avoir un nom, une série, etc. Mais on peut avoir Mein Kampf en claquant sur Internet pour 30 euros. Là, c'est une édition limitée, donc le prix est ce qu'il est, quoi. C'est tout. Je vois pas pourquoi il y a une polémique là-dessus.
On va poursuivre la discussion. On imagine pourquoi elle existe, cette polémique, parce qu'effectivement, Mein Kampf et Adolf Hitler, on n'a pas envie de véhiculer les thèses de Hitler, et qu'on peut imaginer que ceux qui les lisent sont des adeptes d'Hitler. Voilà, c'est le procès qui leur est fait. Mais vous avez raison de dire qu'un historien ou même quelqu'un qui a envie de savoir précisément ce qui est écrit dans ce livre peut l'acheter dans d'autres buts. Agnès Bonfillon dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
RTL.com.
Il est 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
La mort d'une femme de 77 ans hier à Toulouse. Elle a été percutée par un motard alors qu'elle traversait un passage piéton. Le conducteur de 25 ans, actuellement en garde à vue, était peut-être en plein rodéo urbain. L'enquête est en cours. Le conseil scientifique aimerait davantage de tests contre le Covid dans les écoles primaires. Tests plus généralisés et plus réguliers que ce que prévoit l'éducation nationale, sans quoi la rentrée pourrait être très complexe selon les scientifiques. L'automne sera chaud, on parle foot puisque le tirage au sort de la Ligue Europa a eu lieu, dont le groupe G à l'instant Rennes tombe avec Tottenham. Monaco hérite d'un groupe difficile avec Eindhoven et la Real Sociedad. Pas simple non plus pour Marseille, qui dans le groupe E affrontera la Lazio Rome ou encore les Turcs du Galatasaray. L'OM qui appelle ses supporters à se faire vacciner. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'équipe appelle ses supporters donc à protéger leurs proches pour lutter contre l'épidémie dont la quatrième vague frappe durement les hôpitaux de la cité phocéenne. Ronaldo va-t-il jouer à Manchester City cette saison? Seule certitude, il n'a plus l'intention de jouer avec la Juventus. C'est l'entraîneur Turin Allegri lui-même qui le fait savoir. Concernant Mbappé, les discussions, vous le savez, se poursuivent entre le PSG et le Real Madrid. Le club espagnol a fait une seconde offre à 180 millions d'euros. Et vous allez en discuter avec les auditeurs, n'est-ce pas, Pascal ?
Ce qui serait drôle, c'est que Ronaldo vienne au Paris Saint-Germain.
Ouais,
vous auriez
pas.
Messi, vous auriez Neymar, vous auriez Ronaldo. Tout est possible là, dans le football. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais tout est possible. Merci Agnès Bonfillon, il est 14h01.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
La réédition de Mein Kampf pour Véronique, qui habite Le Mans, ça pose aucun souci. Nous sommes d'accord.
Oui.
Vous l'avez lu vous-même?
Des extraits. J'aime bien les choses historiques, mais plus par rapport effectivement à les rois de France, les choses comme ça. Ça m'attire pas énormément. Mais je dirais que quelque part, ce qui serait comique, ce serait que ceux qui disent qu'en France on est en dictature se râlent là-dessus, parce que là on est dans un scénario comique, parce que on peut quand même encore lire ce qu'on veut. Sinon, si on peut plus lire ce qu'on veut et on est tout de suite étiqueté par rapport à son écriture, là effectivement, on passe en dictature. Vous avez des romans policiers chez vous, c'est pas pour ça que vous avez envie d'être un gangster. Donc ceux qui râlent là-dessus, moi j'aimerais bien qu'on aille faire un tour dans la bibliothèque et puis qu'on regarde, ah ça c'est un peu tendancieux, est-ce que vous ne seriez pas en train de devenir pervers? Ah ça c'est un peu porno, est-ce que vous faites... on peut lire de tout. C'est pas pour ça qu'on est la personne que l'on retrouve dans les livres. Moi, je lis un peu de tout. J'ai même une page que j'anime, la Livre Génie Caché. Beaucoup de personnes regardent et je lis des biographies, je lis du roman policier, je lis du roman effectivement de un peu de tout. C'est pas pour ça que je m'identifie au personnage.
Nous sommes d'accord.
Ça n'a rien à voir.
Nous sommes d'accord. Alors Anne est là également et Anne voulait réagir sur ce thème. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous l'avez acheté peut-être cette édition, qui est une édition limitée, et on pourrait même avoir un peu de business, nous disait Anne, sur cette édition limitée.
Alors écoutez,
de spéculation.
Je
je vais vous dire carrément, moi je n'ai pas acheté cette édition-là parce que j'ai acheté la version initiale, si je peux dire. Moi j'ai acheté le Mein Kampf, mais en français, parce que c'est très difficile à trouver en allemand. Hein. Il paraît en France, il y en a beaucoup qui, vous savez, après la guerre, vous savez, il y a des soldats qui sont revenus de Mein Kampf, donc on en trouve encore un petit peu, mais bon, c'est très difficile. Moi je l'ai acheté il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, en version française. Mais ce que je voulais, c'était pas pour le lire, c'était pour l'offrir à mon mari. Mais enfin bon, vous allez me dire que c'est un drôle de cadeau.
Oui, c'est un drôle de cadeau. Tiens, chérie, je t'offre Mein Kampf. C'est quand même très, très, très étrange. Je ne sais pas s'il y a eu un signe particulier ou pas, ou si un message que vous avez voulu lui faire passer. Il a trouvé ça intéressant?
Non, mais Pascal, mon mari, il est très, très germanophile. Il a 80 ans, hein, je vous dis. On n'est pas des gamins, nous. Hein. Mmh. Mais donc, il s'est toujours intéressé à l'Allemagne, à l'histoire de l'Allemagne, à tout ce qui s'est passé pendant la guerre.
Et il l'a lu?
Et bien évidemment qu'il
l'a lu. Il a trouvé ça intéressant?
Ben oui, parce que vous savez, c'est un livre qui est tellement sulfureux. On en parle, mais presque plus personne ne l'a lu, donc bon ben voilà, donc moi je l'ai pas lu, mais enfin bon, au début, donc Hitler, il raconte sa jeunesse, tout ça, il y a la maison, la province et tout, pas tout ça, qui bon, alors évidemment après ça se casse, hein, après il y a toutes les idées qu'il a développées et que tout le monde a critiqué à juste raison. Mais moi ce que je voulais vous dire, c'était que bon, c'est quand même quelque chose de très sulfureux. Moi si je l'ai Vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas acheté sur Internet, je ne l'ai pas acheté parce que, tout simplement, je ne voulais pas laisser de traces, vous voyez, je ne voulais pas qu'il y ait mon numéro de carte, ou mon adresse, ou mon mail, ou mon téléphone, vous voyez, je l'ai vraiment quasiment acheté sous le manteau dans une librairie à Paris qui le vendait. Et nous, vous voyez, parce que j'ai vu votre émission hier à la télé, et avec la photo de Marine Le Pen, avec ce livre derrière elle, dans la bibliothèque d'un ami, et nous, on l'a recouvert, vous voyez, par exemple, on n'est pas courageux jusqu'à ce point-là, vous voyez, on l'a recouvert, parce que c'est vrai que, moi je vous le dis à vous, mais enfin, il y a deux personnes qui doivent savoir qu'on l'a acheté. Mais on l'a acheté pour des raisons vraiment historiques, pour savoir de quoi on parle. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu le témoignage d'Elisabeth Lévy, c'est pour ça que je vous ai appelé aujourd'hui, parce que elle aussi, elle a une autre version, enfin, elle a la version actuelle. Et vous voyez, elle aussi, elle l'a lu pour des raisons d'intérêt historique, quoi, tout simplement, pour savoir de quoi on parle. Voilà, c'est tout simplement ça.
Ben merci Anne, merci beaucoup de ce témoignage. Là aussi, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce que c'est un des succès de l'édition de cet été. Bon, c'est 9000 ventes, hein. C'est pas non plus des millions ou même des milliers d'exemplaires vendus. Mais dans l'édition, un succès de 9000. En plus, le livre coûte particulièrement cher, il coûte 100 euros. Ça nous avait interpellés. Il est 14h06.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On a posé une question tout à l'heure à partir de 12h30. Est-ce que Kaboul, c'est l'échec de Joe Biden? Eh bien, on est avec Laurent, qui habite en Eure-et-Loire. Et peut-être avez-vous un avis sur cette question?
Oui, monsieur Pro, bonjour. C'est assez rigolo de repasser à l'antenne aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne reprise, d'ailleurs. J'espère que les vacances se sont bien passées.
Excellemment, avec plein de soleil dans l'Ouest. On était contents comme tout.
Mais voilà, et pas trop chaud, j'espère.
Ah non, ça, on n'a pas eu trop chaud. Je vous confirme qu'on n'a pas eu d'insolation cette année.
Ben, on s'était eu sur Mein Kampf, justement. Je vous avais dit, je l'avais trouvé en brocante, mon gothique, et que je l'avais lu à la loupe.
Eh bien, je me souviens effectivement de ce témoignage. Il y a quelques temps, déjà.
Mon grand-père Maquignon dirait, on verra à la fin du marché, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, on verra combien ils en ont vendu. Ben, finalement, vous voyez,
c'est pas mal. 9000 à 100 euros, c'est même surprenant.
On avait du nez. Oui, mais parlons d'Afghanistan. Oui, c'est un sujet, je pense que vous-même, vous avez des sujets comme ça qui vous tiennent à cœur, qui sont des sujets, quand on était jeune, des sujets un peu romantiques, disons. Je suis d'Afghanistan depuis 1981. J'ai eu l'occasion de, sur un documentaire passé à minuit, 1h du matin, de voir le commandant Massoud dans ses premiers exploits face aux Russes. Donc vous voyez, ça date et je prends tout ce qui me passe sous la main sur le sujet. Votre question étant, est-ce que c'est l'échec de George Biden ?
De Joe Biden, oui.
De Joe Biden, pardon. Non, pas uniquement, c'est l'échec de la pensée occidentale dans un pays qui ne peut pas comprendre la pensée occidentale en raison de ses propres modes de fonctionnement. Vous avez en Afghanistan, je crois, si je me souviens bien, près de 12 ethnies. 12 ethnies qui sont dirigés par des chefs tribaux. Ces chefs tribaux sont capables de discuter pendant une semaine du droit de passage sur une route. Et nous, nous arrivons occidentaux en leur disant « Nous, on va vous faire une superbe route goudronnée et tout le monde aura le droit de passer. » Donc, vous les court-circuitez, déjà d'entrée de jeu. C'est un pays qui n'a pu être conquis que par Alexandre le Grand. Et encore, c'est de la légende. Qu'est-ce qui est vrai ? Les Anglais s'y sont cassés les dents deux fois. Les trois Anglais qui ont réussi à sortir d'Afghanistan, deux avaient les yeux crevés et le dernier avait la langue coupée. Et ils ont pu raconter aux autres Anglais ce qui se passait là-bas, donc les Anglais n'auront jamais pu fourrer leur nez. Les Russes s'y sont cassés les dents. Je pense que nous arrivons avec nos bonnes pensées occidentales. On veut amener la démocratie, c'est très bien. Mais on ne peut pas amener la démocratie dans un pays qui ne peut pas l'entendre. La solution du problème afghan viendra des Afghans eux-mêmes. À l'époque, vous aviez Massoud qui tenait une vallée, vous aviez le commandant, le général Dostum, qui était un ex-soviétique, alors Massoud et je ne sais plus l'ethnie. Dostum était pas arabe, enfin, il tenait le nord du pays, la vallée d'à côté, ils avaient des intérêts communs, ils s'étaient alliés. Plus au sud, vous aviez Gulbuddin Akhmatyar, qui est une, enfin, je dirais pas le mot, mais qui a assassiné encore récemment ses opposants, qui trempait déjà dans la culture du pavot. L'exportation des pierres précieuses, etc. Au sud, vous avez les Pakistanais qui soutiennent les Pachtounes, officiellement ou officieusement. On ne peut pas rentrer en tant qu'occidentaux dans un pays qu'on ne comprend pas et dont on ne connaît pas l'histoire. La grosse erreur qui a été faite, c'est ça.
Voilà. Et non, mais là où vous avez raison...
Les pauvres gens qui sont allés se faire tuer là-bas pensant que c'était une bonne idée.
Oui, ça c'est terrible. Ouais. Franchement, vous avez raison.
Pour ne rien vous cacher, à l'époque, j'avais 17 ans... J'ai hésité à m'engager dans l'armée française ou à passer par des moyens détournés pour aller rejoindre Massoud. Mmh. Bon, j'en étais à ce point-là, donc c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur. J'ai été très hésitant à vous appeler, parce que c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, j'ai 56 ans, qui continue de me hérisser le poil au plus haut point. Pour ne rien vous cacher, j'avais appelé le 10 septembre, suite à l'assassinat de Massoud, et la personne qui m'avait reçu à l'ambassade d'Afghanistan au téléphone m'avait dit « Massoud est vivant ». Mais je suis ancien militaire, j'avais été capable de lire entre les lignes.
Mmh. Merci Laurent de cette intervention, et là où vous avez raison, c'est que c'est une constante de l'Occident, jamais une intervention militaire au nom du droit d'ingérence, au nom de la liberté, jamais une telle intervention occidentale ne fut un succès. C'est terrible d'ailleurs, parce que jamais non plus une occupation, qu'elle fût courte ou longue, a permis d'enclencher une solution pacifique, et au contraire, souvent, ces interventions, ces occupations ont favorisé ceux qu'on annonçait battus, décimés, écrasés. Je donne pas là un avis, hein. Je dresse un bilan d'intervention de l'Occident depuis 40 ans, que ce soit au Vietnam, en Libye ou au Mali. Alors, la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse faire quand les droits les plus élémentaires des individus sont bafoués, quand les pires des dictatures règnent ? Que faire pour cet Occident qui ne sait jamais comment sortir des bourbiers dans lesquels il se jette ? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent donc était avec nous à l'instant pour parler de Kaboul. Merci Laurent, hein, merci beaucoup. Ah, nous avons un autre Laurent qui est militaire, un ancien militaire également. C'est pourquoi il y avait confusion, je pensais que c'était le même Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal.
J'ai été surpris parce que vous êtes ancien militaire également et Laurent l'était tout autant. Que vous inspire ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul ?
Je dis qu'il y a quand même beaucoup de misère, ça c'est sûr que le pays va mal, ça c'est sûr. Mais après, d'un autre côté, je pense que les dirigeants là-bas, pendant une période, parce que là c'est un peu compliqué avec Daesh, les talibans et tout le reste, mais n'ont jamais rien fait d'exceptionnel pour essayer de redresser le pays, comme par exemple la Grèce qui a tout fait pour essayer de se remonter, et d'ailleurs qu'on commençait à réussir. Bon, après ils font partie de l'Union Européenne, mais comment vous dire, c'est compliqué, mais je pense qu'ils se sont un peu trop appuyés sur les autres pays aussi, ce pays-là, qu'il a beaucoup vécu des subventions des autres pays. Et que, à l'heure d'aujourd'hui, y a trop, comme vous expliquez, Daesh est revenu. Bon, les Américains ont fait leur choix, ce qui est compliqué aussi.
Mais Daesh est revenu, ce qui est compliqué, c'est que pour nous ici, on a l'impression que l'État islamique, Daesh, les talibans, c'est les mêmes. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que l'attentat hier, il faut aussi le décoder il a été revendiqué par l'État islamique, mais c'est aussi contre les talibans.
Oui, mais en fait, c'est deux extrémistes. C'est ça le problème, c'est que vous prenez les talibans ou Daesh, c'est deux extrémistes différents, mais c'est deux extrémistes.
Nous aussi. Sommes d'accord, mais qui ne marchent pas main dans la main, si vous me permettez.
Non, ils ne marchent pas main dans la main, mais le problème qu'il y a, c'est que partout où il y a les talibans ou il y a Daesh, il y a des problèmes. C'est ça le problème.
Je suis bien d'accord avec vous, mais ce que je veux vous dire, c'est que comme la plupart des uns et des autres connaissent assez mal sans doute la situation qui se passe en Afghanistan, ils ont peut-être du mal à décoder, décrypter cet attentat d'hier. Vous êtes vous-même ancien militaire, vous étiez allé en opération peut-être en Afghanistan ?
Oui, j'y suis allé une fois, je suis parti à peu près 3 mois. Moi, j'ai pas fait un grand OPEX, mais ça m'a quand même permis de voir certaines choses, que c'est un pays pauvre, qu'il est mal dirigé, qu'il y a beaucoup trop de laxisme de partout. Après, il y a un autre parti où je pense pour moi que tous les pays donnent suffisamment pour d'autres pays, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il y a beaucoup de pays qui vivent aussi de subventions des autres pays. Et dès que les autres pays commencent à dire, bah, on commence à en avoir marre de donner, bah, ça commence à aller mal, quoi.
C'était en quelle année que vous étiez à Kaboul, peut-être ?
Moi, je suis parti, c'était entre 2001 et 2003.
Et vous aviez eu... alors, c'était en plus au tout début des opérations.
Oui.
Et la France s'est retirée bien avant les États-Unis.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque pour justifier votre présence à Kaboul ?
Que c'était un pays qui allait mal, qui avait beaucoup d'extrémistes et qu'il fallait surveiller le pays, qu'il n'éclate pas et qu'il fallait maintenir l'ordre. Voilà, que ça reste comme ça. Que ça parte, qu'il n'y ait pas de grosses vagues.
Vous avez eu le sentiment d'être utile ?
Oui et non, parce qu'on essayait de faire du bien à la population, de leur remonter le moral quand ça n'allait pas, que quand il y avait des attentats, d'être là, de montrer qu'on ne les lâchait pas. Mais d'un autre côté, je voyais aussi que les gens, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes là-bas qui vivaient des subventions et que ça leur allait très bien. Je veux pas mal parler pour passer pour...
Non, mais j'ai bien compris, puisque à plusieurs reprises, vous l'avez dit. Mais le militaire que vous êtes, il y a beaucoup de vos camarades français qui sont tombés en Afghanistan, beaucoup de soldats également de l'Occident. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que tous ces gens... on ne peut pas dire ça d'ailleurs, on ne peut pas dire que des soldats français tombent pour rien, bien sûr, mais est-ce que vous vous dites pourquoi sommes-nous allés là-bas pour voir le pays dans lequel l'État il est aujourd'hui ?
Bon, après, comment vous expliquer ? Je pense que on donne des subventions, on les aide énormément, mais je pense que, après, moi je ne suis pas assez haut dans, on va dire, dans l'État français pour savoir ce qui se passe réellement là-bas, puisque je pense que si on envoie du monde, il y a toujours Anguille Souroche, c'est toujours ce qu'on m'a appris, il y a toujours peut-être des retours bénéfiques pour les pays qui y vont. Moi, la seule chose que je vois, c'est que, bah, en parlant crûment, bah, c'est la merde, il faut dire ce qui est. Et le souci qu'il y a, c'est qu'ils veulent tous partir. Et le problème qu'il y a, c'est que bah, tous partir, c'est bien, mais il ne peut pas avoir qu'un seul pays qui rapatrie les Afghans dans le même pays. Quoi.
Merci Laurent. Merci de ce témoignage. On va terminer cette semaine avec Mbappé, figurez-vous. Et vous allez pouvoir nous donner votre avis. Et puis ce sera le débrief, comme tous les jours, depuis maintenant une saison et une semaine, le débrief de Laurent Tessier. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Olivier qui va donc lire Marcel Proust désormais tout le week-end.
Et toute l'année.
Tout bon week-end dans l'édition de la Pléiade à la recherche du temps perdu. Que nous dit-on sur la page Facebook ?
Eh bien on commence avec Louis qui nous dit « Si Mbappé est transféré au Real Madrid à 180 millions d'euros, c'est le plus gros hold-up de l'histoire du football. Pour Anne, Kylian n'a plus rien à faire au PSG. Il lui faut un club à sa hauteur. Pierre s'énerve sur nos réseaux. Mbappé méprise le club et la toujours fait, on n'aurait jamais dû le recruter. Privilégions ceux qui ont l'amour du maillot. Claude nous dit si Mbappé part, je supporterai le Real Madrid. Et pour finir, Antoine pense que si Kylian part, sa cote de popularité en France va repartir de plus belle. Pascal.
Bon, Jamel est avec nous. Bonjour Jamel.
Oui, bonjour Pascal.
Et
bonjour,
merci d'être avec nous. Alors, comment vous interprétez le possible départ d'Mbappé ?
Alors moi, je l'interprète comme une énorme opportunité pour lui.
c'est un choix judicieux et très malin de sa part, parce que c'est un gros club qui l'accueille, qui lui déroule le tapis rouge, avec lequel il aura de belles années, avec lequel il aura un projet construit autour de lui.
Vous trouvez que c'est, qu'il a raison, que c'est un bien bon sûr. Choix, que le Real, c'est un meilleur choix que le Paris Saint-Germain?
Déjà, il faut savoir que c'était un rêve d'enfant pour lui déjà de jouer au Real de Madrid. Mmh. Et je pense que de le voir concrétiser son rêve, ben, je pense que personne ne peut se mettre devant son rêve.
Mais vous trouvez que sportivement, il a raison?
Ben bien sûr, je trouve que sportivement, il a raison, parce que au PSG, ça commence un peu à devenir, ça va devenir un peu la guerre des égos, vu ce qu'ils ont recruté. Et non, je pense qu'il allait être de moins en vue, en fait, cette saison avec Messi et Neymar. Je pense que.
Mais c'est une opportunité quand même, pourquoi pas, de gagner la Ligue des Champions, et puis une opportunité de jouer avec Messi, et puis il pouvait attendre 8 mois, mais a priori, par exemple, le PSG est meilleur que le Real Madrid cette année.
Bien sûr, sur le papier, le PSG est meilleur que le Real de Madrid, ça c'est indéniable. Mais encore une fois, je trouve que mêler autant. Moi, j'ai jamais été pour le mélanger autant de stars comme ça du ballon rond dans une équipe. Je suis fan du Real de Madrid depuis toujours. Et même l'époque des Galactiques, etc., qui est au Real de Madrid, quand vous regardez bien, ils ont eu les meilleurs joueurs à chaque poste. Et c'est pas pour autant qu'ils ont gagné autant de titres.
Non, mais ça peut aider quand même quand on a des meilleurs joueurs au meilleur poste. Jean-François est là pour terminer, qui habite dans l'Hérault. Jean-François, bonjour. Jean-François, une fois.
Jean-François,
vous êtes là? Non, bah, il n'est pas là, Jean-François. Donc, on va poursuivre avec Jamel, peut-être. Jean-François, vous êtes là ou pas? Non, bah, Jamel, je vous laisse le micro, puisque Jean-François n'est pas là.
Non, mais voilà. Donc, en fait, concrètement, Mbappé, en fait, la place qu'il occupe aujourd'hui en France, médiatiquement, elle est... Enfin, je trouve que c'est une charge pour lui, parce que je trouve ça un peu injuste, parce que vous en aviez parlé un petit peu juste avant. C'est-à-dire que je trouve qu'il se fait, enfin, il s'est fait citer dans tous les stades là depuis la reprise de la Ligue 1, et je trouve qu'en France, on ne reconnaît pas sa juste valeur.
Nul n'est prophète en son pays, c'est toujours la même chose, mais je suis un peu d'accord avec vous. Il se fait siffler, d'ailleurs même Michel Platini hein, dans le temps avait été sifflé une fois quand il était revenu à Paris. Je trouve que c'est peut-être des deux côtés, mais le public français n'est pas toujours peut-être agréable avec Mbappé, mais lui-même est devenu moins ouvert, moins sympa peut-être. Bon, et c'était un gosse tellement ouvert, tellement sympa, tellement naïf. Il a perdu cette fraîcheur. Bon, mais peut-être se protège-t-il aussi. C'est tellement compliqué à 22 ans d'être une star comme il l'est que je suis assez indulgent.
C'est sûr. Ben après, il a évoqué un peu à plusieurs reprises que c'est assez difficile pour lui de supporter. Mais bon, je trouve au moins que la réaction, enfin, elle est un peu disproportionnée, parce que au Mondial 2018, ça a été le héros. On l'a acclamé dans toutes les rues, dans toutes les, enfin, partout, sollicité de partout. Et là, l'euro, bon, ben, c'est une erreur de parcours.
C'est vrai que le public a parfois la mémoire courte. Juste un mot, parce qu'on a retrouvé Jean-François, figurez-vous.
Ah, oui, je suis là.
Voilà, Jean-François, vous êtes là. Un mot très rapide sur Mbappé.
Oui, alors je voulais juste dire que Mbappé pourrait rester en France et gagner la Champions League avec l'équipe de France, avec le PSG, et puis ensuite partir avec au Real de Madrid, puisqu'il a 23 ans. Bah, ce serait bien sur son CV, quand il sera à la retraite, se dire j'ai gagné avec un club français, et puis après bah, aller à l'étranger, et puis gagner avec un club étranger, le Real de Madrid.
Mais oui, mais comme il veut pas, il veut partir. Donc il en
oui,
a assez,
sais,
il en a assez
de la jouer France. Avec bon. Messi, ça se refuse pas. Hein.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est surtout ça. Je suis très étonné qu'il ait pas envie de jouer avec Messi. Mais
c'est
bon.
Comme si à l'époque on disait jouer avec Michel Platini, c'était un rêve.
Je suis d'accord, Jean-François. Il est 14h24, ça va être l'heure du débrief. Journée. Merci Jean-François, merci Jamel.
Au revoir.
Merci
au revoir.
À Damien Béchiot, bien sûr. Et le débrief avec l'ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
La rentrée scolaire vous inquiète-t-elle? C'est la question qui vous a fait réagir ce midi. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est lui confiant. Il nous l'a dit ce matin sur RTL.
Tout va très bien, madame la marquise.
Nous sommes très sereins sur cette rentrée. L'école n'est pas un lieu spécifique de contamination. Bien sûr, l'école protège. Alors, je n'ai jamais prétendu que le virus s'arrêtait à la porte de l'école. Non, entendu.
Des propos qui ont fait bondir Christophe, directeur d'école dans les Hauts-de-Seine.
Le ministre est dans son rôle, à l'instar d'un pilote d'avion qui serait en décollage avec une météo extrêmement compliquée. compliquée. Vous le voyez dire aux passagers, mesdames, messieurs, le décollage va être absolument catastrophique. Je ne suis pas sûr d'arriver à destination. On est dans la même situation.
Et Christophe ne s'arrête pas là. Non, il ne peut pas accepter ce discours du ministre de l'Éducation nationale.
Il est évident que le virus continue à circuler malgré 2 mois d'école fermée. Cela signifie que la rentrée va être compliquée.
Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, il n'y avait pas que la rentrée scolaire qui pouvait vous faire réagir. Non, une actualité méritait d'être mise en avant.
C'est la Saint-Monique aujourd'hui.
Ah oui.
Et nous lançons un appel à tous.
Et là, vous imaginez bien que l'ami Julien Courbet a réagi immédiatement.
Est-ce que le dicton Monique II qui... Est-ce que vous avez pu vivre ça chez vous? Vous l'avez vous-même constaté, témoigné?
Ce n'est pas le sens de ma question.
Ah pardon, allez-y.
Bon, forcément, Pascal lance un appel au standard. Une seule mission, un seul objectif.
Je souhaiterais notamment que toutes les Moniques nous appellent, bien sûr, mais surtout des jeunes Moniques. Est-ce qu'il y a une jeune fille de 15 ans, 20 ans qui s'appelle Monique?
Alors,
et je voudrais savoir comment elle vit ce prénom si particulier.
J'espère que vous avez l'après-midi devant vous pour attendre l'appel téléphonique, mais si vous avez une Monique de 7-8 ans, qu'elle nous appelle très vite. J'ai une Thérèse de 3 ans, si vous voulez, là.
Bon, comme les réactions sont pas extraordinaires dans le studio et que Julien Courbet a quand même des doutes, vous n'hésitez pas, Pascal, à m'intégrer dans votre projet.
Nous avions envie, avec Laurent Tessier, de rendre hommage à ce prénom très français.
C'est cela, oui.
Mais mesdames, messieurs, Pascal Praud va-t-il réussir son pari? Qui l'emportera entre Pascal et Julien Courbet?
Eh bien, nous avons une Monique qui a 24 ans. Bonjour Monique.
Bonjour.
Victoire! Et vous pensez bien, on est un peu vicieux quand même dans les auditeurs à la parole. Nous avons appelé Julien Courbet, fier de notre victoire.
Il y a tellement d'auditeurs sur RTL que la probabilité que vous en trouviez une était vue plutôt facile. Sur une autre radio, ils n'auraient pas pu le faire. Mais félicitations. En tout cas, elle a une très belle voix, Monique.
Ah, vous êtes bon joueur, Julien. Allez, le prénom Monique reviendra-t-il à la mode?
J'espère, mais j'y crois pas trop, honnêtement.
Ça va être compliqué quand même.
Franchement, faut y aller. Hein.
Monique a autant de chances de revenir à la mode que les journaux Bordeaux qui nous championnat cette année, c'est la première année. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible.
Affaire à suivre. Et puis nous avons présenté le petit nouveau hier dans l'équipe, Olivier, qui lit tous vos messages. C'est Monsieur Facebook, Monsieur Boubouk.
L'homme, si j'ai bien compris, de Facebook cette
Exactement,
année.
Exactement, l'homme uniquement de Facebook.
L'année dernière, il a traversé toute la saison avec des coiffures étranges. Nous en sommes à son 4e jour, il est toujours là.
Et cette mèche à la Titeuf légendaire, Olivier en est fier, il tente de nous le dire.
Vous m'avez dit hier que je ressemble à Marcel Proust.
Oui, la coiffure de Marcel Proust, vous savez, il était coiffé avec une raie au milieu,
oui, vrai,
Marcel Proust. Vous aimez Proust, Olivier?
Bien sûr.
Ah non, Olivier, vous êtes très joueur, mais ne dites pas ça, malheureux, Pascal va foncer immédiatement.
Vous le lisez régulièrement? Non, mais vous avez le droit de pas aimer, hein.
Alors,
joueur.
Je le connais, je ne l'ai pas lu, mais je le connais, c'est normal.
Vous l'aimez, mais vous ne l'avez pas lu.
Ouais. Je ne sais pas vous, mais une seule réaction suffit.
Quelle indignité.
Oui. Merci, monsieur Sarkozy. Aujourd'hui, il a tenu Olivier à se rattraper. Il a travaillé toute la soirée pour trouver une citation.
Oui. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Eh bien, écoutez, Pascal, dans ma vie, vous êtes un jardinier. Je voulais vous le dire.
Mais vraiment, mais c'est terrible. Bon, c'est tout ce que vous avez à me dire.
Oh là là, c'est bon. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec peut-être, attendons encore, la chanson préférée de Kylian Mbappé.
À la Madrid, à la Madrid.
Merci Laurent Tessier, merci à tous les auditeurs, merci à toute l'équipe. C'était notre rentrée cette semaine, c'était un plaisir. Jean-Alphonse Richard à 14h30, comme tous les jours, désormais l'heure du crime. À lundi!